Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureux de recevoir au micro d'Un jour dans l'histoire François Kersaudy. François Kersaudy, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons à ce micro. L'année 2009 a été marquée par la réédition d'un de vos ouvrages maîtres. Il s'agit de la biographie de Winston Churchill et cette réédition est importante. Elle a été largement augmentée de plus de 100 pages. Elle est aujourd'hui bien plus complète. Il s'agit déjà d'un gros ouvrage, plus de 650 pages, qui se lisent, j'allais dire, comme un vrai roman d'aventure, puisque la vie de ce personnage est vraiment tout sauf ennuyeuse. Alors j'ai souhaité, pour couvrir cet énorme sujet, réaliser non pas une seule émission, mais deux émissions, une première consacrée à l'avant-guerre, une large période déjà, qui s'étend de 1874, année de sa naissance, à 1939. Ensuite, au cours d'une deuxième émission, nous verrons ce que j'ai appelé l'autre appel du 18 juin, celui donc de Churchill, discours bien plus politique que celui du général de Gaulle, mieux connu naturellement de ce côté-ci de la Manche. L'autre appel du 18 juin sera donc bien évidemment consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Quelques mots cependant de l'éditeur. Les éditions Talandier, qui est donc votre éditeur, la biographie de Churchill, viennent de rééditer également Mes jeunes années, donc des textes de Churchill, Réflexions et aventures, et enfin ses discours de guerre. Alors, François, je me plonge dans le sujet qui, je le répète, est vaste. Churchill, c'est d'abord des origines prestigieuse.
Ah oui, oui, ça sans aucun doute. Il descend par son père du grand John Churchill, duc de Marlborough, celui qui a vaincu les troupes de Louis XIV partout où il les a rencontrés. En récompense de quoi, on lui a donné un beau château, le château de Blenheim. C'est justement dans ce château, appartenant au 7e duc, son grand-père, que naît Winston Churchill en 1874.
Alors, il vit sa jeunesse dans une mondanité certaine, et c'est une mondanité, j'allais dire, un peu reluisante.
Oui, le mode de vie de ses parents est pour le moins original, pas tellement pour l'époque, mais quand on le regarde maintenant, évidemment, ses parents sont des gens quand même assez frivoles, surtout sa mère, qui ont beaucoup d'occupations. Ils en ont tellement d'ailleurs qu'ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leur fils. Le père, c'est la politique et les mondanités. La mère, c'est les mondanités et les mondanités. C'est-à-dire un grand nombre d'amants. Le père, d'ailleurs, a aussi un grand nombre de maîtresses, en plus de la politique, ce qui, d'ailleurs, lui coûtera très cher, puisqu'il va mourir d'une syphilis non soignée en 1895, c'est-à-dire quand son fils a près un petit peu plus de 20 ans. Donc, c'est un monde frivole que le jeune Winston perçoit curieusement, il ne comprend pas grand-chose, mais dans lequel domine la politique. Et donc, dès son plus jeune âge, il attrape le virus de la politique au contact de son père. Heureusement, c'est le seul virus qu'il a attrapé, du reste.
Alors, précisément, cette question sociale est très importante parce qu'elle vaudra à la famille d'être, en quelque sorte, exilée en Irlande.
Voilà. Le père se mêle d'affaires qui ne le concernent pas trop, mais ce sont encore des affaires intimes de son frère. Tout le monde se trompait dans ces histoires-là. Et c'était d'ailleurs victorienne, donc on pouvait le faire, mais il fallait le dissimuler. Et lui n'était pas discret du tout, le père, Randolph Churchill. C'était quelqu'un de brillant à bien des égards. C'était l'étoile montante du Parti conservateur. Il était ministre des Finances. Tout le monde pensait qu'il serait Premier ministre. Sauf qu'il était un petit peu trop imprévisible, un petit peu trop bouillonnant, un petit peu trop désagréable. Et surtout, la syphilis faisant des progrès, il devenait de plus en plus insupportable. Et surtout, de plus en plus, son comportement devenait de plus en plus erratique jusqu'à ce qu'il sombre totalement dans la folie et il est mort dément.
Alors voyons la formation Winston Churchill. C'est un cancre, mais c'est un cancre avec beaucoup de qualités, même très, très brillant.
Oui, c'est un cancre brillant. Voilà, vous avez très bien résumé. C'est la première fois que sa tante vient le voir en pension. Elle en donne une très bonne description. Elle dit que c'était un petit bulldog méchant aux cheveux roux. Voilà, un petit bulldog méchant. Ses professeurs de l'époque ont une expression beaucoup plus courte. Ils disent que c'était un abominable garnement et c'était un cancre patenté. Alors ça, c'est tout à fait juste. Il était pratiquement, il était nul. Il était nul en latin, il était nul en maths, il était nul en grec, il était nul en conduite, il était nul en français, ça ne changera jamais. Seulement, c'était un cancre atypique. Un cancre atypique parce que ça étonnait un petit peu ses professeurs, parce que quand même certaines choses... D'abord, c'était un lecteur vorace, avec une mémoire absolument phénoménale, comme son père. Il lisait quelque chose une fois, il le retenait pendant 80 ans. Il pouvait vous le ressortir, des pages entières. Il avait lu, c'est une mémoire totalement photographique. Il avait une imagination très riche, avec les moyens de l'exprimer, oralement et par écrit. On s'aperçoit très tôt qu'il a une très belle plume, un très bon style. Et puis surtout, il a pour un petit garçon maladif, parce qu'il est maladif, il a une résistance, une énergie et une volonté qui sont quand même tout à fait étonnants et qui font un petit peu l'admiration et à la fois le désespoir des gens qui l'observent. Et puis surtout, on voit dès le départ qu'il a trois préoccupations qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il fait à l'école. Il y a la politique, on l'a dit, c'est l'imitation du père. Il a vu défiler tous les politiciens, les grands politiciens de l'époque à la table de son père. Il est allé écouter son père au Parlement. Il connaît tous ses discours par cœur, évidemment. Il l'a entendu une fois, il les connaît par cœur. Ça, c'est la première chose, c'est le démon de la politique, ça ne le quittera jamais. La deuxième, c'est l'écriture, on l'a dit. L'écriture sous toutes ses formes, on ne peut pas l'empêcher d'écrire. Donc, il commence par des articles, après, il y aura des livres. Après, il écrira ses discours. Mais le démon de l'écriture. Et évidemment, il écrit extraordinairement bien dès le début et il s'améliorera de plus en plus. Et puis, il y a une troisième chose, la troisième vocation qui ne le quittera jamais non plus, c'est la guerre. Parce qu'on l'a dit, il est né au château de Blenheim, il a été aussi élevé en grande partie dans le château de son grand-père, le 7e duc de Marlborough. Et ce château de Blenheim, si vous le visitez, vous verrez, c'est une sorte de Versailles en miniature, pas si miniature que ça. Mais quand le petit Winston, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, erre dans les galeries de ce château, il y croise des quantités invraisemblables d'armes, d'armures, d'étendards, de tableaux de guerre à n'en plus finir. Et un petit peu par capillarité, il arrive à se convaincre qu'il a hérité des talents de stratège de son illustre ancêtre Marlborough. C'est totalement faux, mais il le croit et c'est l'essentiel. Et c'est cette première vocation, celle de la guerre, qui va d'abord dominer chez lui. Et c'est pour ça qu'il va se mettre à travailler dur pour entrer à l'académie de guerre de Sandhurst, qui à l'époque formait des sous-lieutenants de cavalerie.
Alors, avant de venir à cette carrière militaire et puis même à la guerre tout court qui dominera en fait son existence, puisqu'il va en vivre plusieurs, non pas seulement la Première et la Deuxième Guerre mondiale, peut-être quelques mots sur ses relations avec ses parents. Vous parlez de gouffre entre d'un côté ses parents et lui pourtant qui n'aspire qu'à une chose, obtenir cette reconnaissance paternelle.
Absolument. Alors, les relations avec les parents, bon, assez bien résumé. Sa mère, il l'a dit, ma mère brillait à mes yeux comme l'étoile du soir, mais de loin. De loin, parce qu'il ne la voyait pas souvent, il faut bien dire. Et quand on l'avait collé en pension, ses parents venaient le voir une ou deux fois par an, les bonnes années. Et donc, il était en gros abandonné. Quant au père, eh bien, c'était pire parce que son père le méprisait. C'est curieux à dire, mais son père a toujours considéré que son fils était un imbécile. Et donc, c'est un mépris écrasant qui faisait énormément souffrir son fils. Et Winston, depuis son plus jeune âge, a fait un nombre incalculable de choses uniquement pour attirer l'attention de ses parents sur lui. Et il a brillé, il a fait du théâtre, il a remporté des coupes à l'escrime, à la natation, au tir au pistolet, à l'équitation. Il l'a emporté sur des gens beaucoup plus grands et beaucoup plus forts que lui. Tout ça dans l'idée que il allait attirer l'attention de ses parents. Ça ne marchait pratiquement jamais. Son père l'a méprisé pratiquement jusqu'à sa mort. Et lui, il l'a toujours adoré. C'est très curieux, c'est vraiment cet échange de l'admiration contre le mépris. C'est assez inexplicable. Et Churchill n'a jamais désespéré d'entrer en grâce, même à titre posthume, auprès de son père. Et même jusqu'à sa mort, il y a « si mon père me voyait maintenant, il faudrait que mon père me voie maintenant ». Là, il changerait d'avis. Et son rêve, c'était d'entrer au Parlement avec son père et qu'ils puissent enfin travailler ensemble et qu'il puisse enfin y avoir une relation de confiance, peut-être même d'égalité avec son père, qui n'a jamais eu, évidemment, tellement le mépris du père était écrasant.
Vous citez William Manchester qui disait ou écrivait « On vit rarement homme investir en un fils aussi peu d'affection et en recueillir pareil dividende de loyauté posthume. »
Voilà, c'est un résumé parfait de la situation.
Alors, il a un rêve, vous avez présenté l'amour des armes, l'amour de la guerre. Alors, nous allons revenir à la relation à la guerre. Je reste sur le père, son père disparaît et... La mort du père, au-delà du ressenti, du malheur que cela pouvait représenter pour lui, va créer une sorte d'électrochoc, parce qu'il va se rendre compte que finalement, dans sa famille, on meurt tôt. Et il va en tirer une sorte de goût de l'action et une volonté d'agir que l'on retrouve rarement chez un quidam moyen.
Oui, absolument. C'est un jeune homme pressé. La plupart des gens ne sauront pas pourquoi, mais c'est exactement pour la raison que vous venez de citer. En fait, il pense que les Churchill meurent jeunes. Personne ne lui a jamais dit pourquoi son père était mort. Ça ne se disait pas à l'époque. Et il a pensé que c'était une tare congénitale. Le frère de son père aussi était mort jeune. On mourait jeune dans la famille. Donc, il a pensé qu'il était lui-même condamné et qu'entre 40 et 50 ans, il aurait probablement achevé sa vie. D'où l'importance pour lui de réaliser toutes les ambitions de son père avant de mourir. Et donc la plus haute, qui était celle d'être Premier ministre. Et on l'entendra souvent à l'âge de 22 ans, à l'âge de 23 ans, à l'âge de 24 ans, dire... écoutez bien ce que je vais vous dire. Avant d'en avoir fini, je serai Premier ministre d'Angleterre. Il l'a dit une bonne demi-douzaine de fois. Les gens se moquaient de lui, bien entendu. On ne le prenait pas au sérieux. Mais il le disait et il disait aussi « Je n'ai pas beaucoup de temps. Maudite soit notre nature mortelle. Maudit soit le peu de temps qu'il nous reste. » pour laisser notre marque. Donc, voilà, c'est vraiment... et pour ça, il est prêt absolument à tout. C'est tout à fait étonnant. Il veut laisser une trace.
Or, il va vivre longtemps et même très longtemps. C'est ce que nous allons voir, François Kersaudy, après cette première pause.
Les bandes dessinées retraçant les aventures de l'Indien Oompapa ont certainement atterri un jour entre vos mains. Le bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny vous raconte comment ce drôle d'Indien est devenu l'ancêtre d'un autre personnage emblématique, Astérix. Découvrez également comment René Goscinny et Albert Uderzo ont créé une révolution culturelle à travers leur succès. Un Indien nommé Oompapa, une émission du bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Churchill. Il s'agit d'une première émission consacrée à Churchill. Il y en aura une deuxième. Nous voyons toute la période avant 1939. Je reçois François Kersaudy, biographe de Winston Churchill, une biographie parue aux éditions Thaïlandier, les éditions Thaïlandier qui ont également réédité plusieurs textes de Churchill réunis dans trois ouvrages, Mes jeunes années, Réflexions et aventures et enfin Ses discours de guerre. Vous le disiez, François Kersaudy, avant cette pause, Churchill est un personnage qui est lié au monde de la guerre. Il rentre à Sandhurst, puis, au fond, il va parcourir l'Empire britannique à sa découverte, avec plus ou moins, j'allais dire, de succès guerrier.
Alors, déjà le cadet, il faut parler, le cadet Winston Churchill à Sandhurst, c'est vraiment le cadet atypique. D'abord, il a un manque de ponctualité absolument effarant pour un militaire, même pour un civil, d'ailleurs, il est toujours en retard. Ensuite, ses instructeurs s'aperçoivent avec effroi qu'ils discutent leurs ordres. Quand ils pensent que les ordres ne sont pas intelligents, ils commencent à discuter. Ça ne s'était jamais fait dans toute l'histoire de l'académie. Et évidemment, ça ne lui attire pas la sympathie des instructeurs. Puis, il y a une troisième chose, c'est que les marges marche de 30 km avec des sacs à dos de 20 kg, ça n'est pas fait pour les petits gabarits. Or, on ne se rend pas compte, mais Churchill, c'était un petit gabarit. À l'époque, il était fluet et il n'était pas grand, 1m64 et très maigre. Et donc, il se retrouve presque immédiatement dans ce qu'on appelait le peloton des empotés. Hein. Seulement, il ne va pas y rester longtemps. Parce qu'on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est que là, on est dans une école de cavalerie. Le meilleur cavalier, c'est lui. C'est normal parce qu'il monte des poneys depuis l'âge de 4 ans. Donc, il peut vivre pratiquement à cheval. Il peut tout faire sur un cheval. Hein. Il peut monter à l'endroit, à l'envers, sans selle, etc. Enfin bon, sur le flanc du cheval. Il sait tout faire. Et puis, autre chose, c'est que ce qui se fait là-bas, ça, immédiatement, ça éveille son intérêt parce que ça lui rappelle ses jeux d'enfance. Hein. On creuse des tranchées, on fait des fortifications, on pose des mines, on fait des embuscades, des reconnaissances. Tout ça, il a fait depuis son plus jeune âge. Avec son frère, avec ses sœurs. Il n'avait pas de sœurs, mais enfin avec ses cousines. Et bon, c'est, là aussi, il devient quand même... Et puis bon, il est très fort en sport. On a toujours dit, raconté, mais c'est une boutade, un no sport. Hein. C'est faux. Hein. Il est champion d'escrime, il est champion de natation, il est champion de tir à carabine, il est champion de tir au pistolet. Et surtout, il est champion de polo, de steeplechase, de tout ce qui se fait à cheval. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que toute la partie théorique... celle qui rebute les cadets, hein, ces hommes d'action, le règlement militaire, la tactique, l'histoire militaire. Eh bien, tout ça, lui, il lit une fois, il le sait pour les 70 ans à venir. Donc, c'est toujours cette mémoire phénoménale. Et donc, évidemment, lui qui était entré dans les tout derniers à Sandhurst, eh bien, il en sort dans les tout premiers. Et évidemment, ça le conforte dans sa vocation.
Non seulement il a cette mémoire, mais il a une volonté d'apprendre. Et puis, il lit énormément, vous le disiez tout à l'heure.
Il lit énormément et tout ce qu'il lit, il enregistre. Ça reste. Il le sait par cœur. Il peut vous réciter 100 pages, 120 pages, sans aucun problème. Il les a lues une fois, il les revoit, il les sait. Il va vous les ressortir dans un discours 30 ans après. On ne saura pas d'où ça vient. En fait, ça vient d'un magazine qu'il avait vu par hasard, comme ça, rapidement. Donc, c'est vraiment la mémoire photographique. Et les campagnes qui vont suivre, alors, à la différence de beaucoup des cadets qui sortent de là avec un bel uniforme et qui veulent seulement briller dans la société, parce que, bon, c'est vrai que l'uniforme de sortie d'un cadet de Sandhurst, c'est quand même très présentable. Ça attire aussi les demoiselles, enfin, c'est très bien. Mais lui, il pense qu'il n'a pas fait ça pour s'amuser. Sa vocation, puisque sa vocation, c'est la guerre, il va aller faire la guerre, y compris chez les autres, là où les Anglais ne sont pas concernés. C'est ce qui l'amène à Cuba. Alors, on va le voir successivement dans les guerres des autres, donc chez les Espagnols à Cuba, mais aussi en Inde. Donc, deux campagnes successives en Inde, puis après on va le voir au Soudan, puis après on va le voir en Afrique du Sud. Et c'est là encore un officier tout à fait atypique parce que je vous ai dit qu'il avait trois vocations, il n'y renonce pas. Donc en même temps qu'il fait la guerre, il est correspondant de presse et il écrit dans les gazettes de Londres. Et alors ça, c'est très ennuyeux parce que qu'est-ce qu'il écrit ? Eh bien, il fait des commentaires sur la stratégie des généraux et il dit que tout ça est extrêmement mal géré, la tactique n'est pas bonne, la stratégie non plus, l'intendance ne suit pas, tout ça est lamentable, on ne sait pas comment traiter les indigènes, enfin bref. Et tout ça s'étale dans les gazettes de Londres, signé par un certain lieutenant Winston Churchill. Dans n'importe quelle armée du monde, un sous-lieutenant ou un lieutenant qui se permettrait ce genre de choses se retrouvait très rapidement au trou. Mais là, on ne peut pas. Et pourquoi on ne peut pas ? Ben, on ne peut pas pour trois raisons. La première, c'est qu'il s'appelle Churchill. Et Churchill, c'est comme Napoléon en France. On ne peut pas prendre la responsabilité de mettre au cachot un type qui s'appelle Churchill. C'est absolument impossible. Les officiers, même supérieurs, même les généraux, se mettent au garde à vous mentalement quand ils entendent le nom de Churchill. C'est Marlborough, c'est voilà. Tout ça. Bon. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que la mère du cadet Churchill, c'est la maîtresse d'un grand nombre de gens influents, depuis le ministre de la Guerre jusqu'au prince de Galles, le futur Édouard VII. Et par conséquent, on ne traite pas son rejeton comme n'importe quel officier subalterne. Il faut faire très attention, il faut prendre des gants. Et puis quand même, la troisième raison, c'est que ce Churchill, qui est un empoisonneur et un empêcheur de tourner en rond, c'est aussi un habitué des actions héroïques. Il faut un petit peu voir comment il combat. C'est quelqu'un qui part avec l'avant-garde à l'aube et qui revient avec l'arrière-garde au crépuscule et qui chevauche sur la ligne de tir sans jamais se cacher. Les autres s'enterrent, se cachent et sont blessés. Et lui, il se cache jamais. Il gesticule à découvert. Et il n'est jamais touché. Alors, les gens trouvent ça injuste, mais en faisant tout ça, d'abord, il rallie les troupes, Ensuite, il va secourir les blessés. Il fait quand même des choses extraordinairement héroïques. Et on le verra en Afrique du Sud avec la fameuse histoire du train blindé où il fait remettre sur les rails un train qui a déraillé et repartir la locomotive avec le tender et tous les blessés dessus alors qu'il a été sous le feu des bourgs pendant 50 minutes et qu'il était le seul à être à découvert, à s'agiter. On lui tirait dessus au canon, à la mitraillette, au canon mitrailleur. Et c'était des tireurs d'élite, les bourgs, hein, il faut bien voir. C'était un jeune homme roux flamboyant, donc c'est vraiment une cible absolument rêvée. Et il n'a pas eu une égratignure. Et quand il a été capturé, en fin de compte, alors que le train était parti, il a été capturé et il s'est évadé. Donc c'est devenu le héros de l'heure. Aller emprisonner un type comme ça.
L'évasion a été un fait extraordinaire parce que ça lui a donné une notoriété, presque internationale.
Absolument. Une notoriété absolument internationale. D'autant que comme il restait correspondant de presse, il ne s'est pas privé de raconter ses exploits dans toutes les gazettes de Londres qui ensuite ont été rediffusé dans le monde entier. Sa tête a été mise à prix. Il y avait une affiche, pas très chère, mais enfin, quand même, ça lui donnait évidemment un prestige considérable.
Il s'en servira d'ailleurs plus tard avec l'Irlande en mettant...
Absolument. Voilà, en montrant l'affiche, oui, parce qu'on lui avait fait cadeau de l'affiche.
Alors, il y a cette histoire extraordinaire de son emprisonnement et donc de cette évasion, mais on voit un homme à la fois littéraire, mais passionné d'action au fond. Est-ce que à un moment finalement, à quel moment plutôt il s'est dit ça sera la politique? Est-ce que ce statut ambigu de militaire et de journaliste finalement n'a pas fait peser la balance du côté du journaliste au-delà de l'engagement que l'on pouvait avoir en politique?
Oui, on peut se demander d'ailleurs si la politique n'était pas là depuis le tout début, mais c'est quand même un facteur qui l'a décidé à quitter l'armée qu'il adorait. C'est le fait que l'entretien d'un officier de cavalerie, ça coûtait horriblement cher et la solde était ridicule. Et donc, le lieutenant Churchill était très dépensier et il devait payer pour le privilège de se battre. Il y avait les chevaux, il y avait les uniformes, il y avait les poneys de polo, je vous rappelle qu'il était champion de polo, il y avait l'alcool, et tout ça, ça coûtait horriblement cher. Et comme il était mal payé, il avait des dettes. Et il s'est aperçu que, avec trois articles dans les journaux, pratiquement, il avait déjà atteint sa solde de l'année. Et donc, autant il adorait se battre, autant il s'est aperçu finalement que ce n'était pas vraiment rentable et que la vocation première, s'il voulait entrer marcher sur les traces de son père, il fallait qu'il entre en politique et donc qu'il soit élu. Et il faut bien voir d'ailleurs que pendant les pauses en Inde, même dans les endroits les plus désolés, les plus malsains, il lisait. Et qu'est-ce qu'il lisait? Le registre parlementaire. Il apprenait par cœur les registres parlementaires des 100 dernières années pour préparer son entrée en politique. Et donc ça, c'était déjà au tout début. C'était à 21 ans. Donc ça prouve qu'il y pensait déjà depuis quand même assez longtemps. Mais il n'a jamais été capable de choisir entre les trois métiers et il a toujours, toute sa vie, poursuivi les trois simultanément. Et quand il était bloqué d'un côté, il passait à l'autre.
Il faut relativiser le cancre dont nous parlions tout à l'heure, parce que tel que vous le présentez là, c'est un bourreau de travail qui sait ce qu'il veut.
Oui, absolument. Le cancre venait du fait qu'on ne lui avait pas expliqué à quoi servaient les études. Et il le disait lui-même, d'ailleurs, quand je ne sais pas à quoi sert ce que je dois apprendre, je n'apprends pas. Et puis il disait aussi cette chose fabuleuse d'ailleurs, alors que j'étais tout prêt à étaler ma science, mes professeurs s'efforçaient d'exposer mon ignorance, et donc ils ne pouvaient pas s'entendre.
Il est élu donc député, et il est élu député à 26 ans.
Voilà, il était élu député à 26
ans. Il rentre au gouvernement à 32.
Exactement. Alors, la popularité de ses campagnes, évidemment, a fait beaucoup pour son élection, puisque avant les campagnes, il s'était présenté, il avait été battu à plate couture. Mais là, revenant d'Afrique du Sud, c'était le héros. On a élu le héros. Même les libéraux, ils étaient conservateurs, même les libéraux ont voté pour lui parce que c'était le héros du moment. Donc, il est devenu politicien. Il est entré sur la scène politique mondiale au moment où la reine Victoria en sortait, donc juste au tournant du siècle. Et il est entré au Parlement. Et le Parlement, évidemment, a vu entrer un phénomène qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était le député Churchill.
Quel est son engagement finalement ? Vous présentez un personnage qui a une tradition conservatrice, mais au fond, il a un regard très social.
Ça va venir. Son premier regard, c'est son autopromotion. C'est malheureux à dire, mais il veut s'engager pour de grandes causes parce que ça lui permet de briller. Alors, ce n'est pas un orateur, Churchill, hein, au départ. C'est quelqu'un qui écrit ses discours. Je vous dis, c'est un fabuleux écrivain. On voit bien, d'ailleurs, maintenant que Talandier commence à traduire ses œuvres, on voit bien ce que c'est. Quand elles sont bien traduites, on voit bien ce que c'est que l'écrivain Churchill. C'est magnifique. C'est un des 3 ou 4 plus grands écrivains de son siècle. Mais par contre, ce n'est pas un orateur. Il écrit ses discours, il les lit une fois, il les sait par cœur et il les récite. Et il peut faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas un orateur non plus parce que, bon, il ne sait pas improviser. Il a un défaut de prononciation. Il ne sait pas prononcer les S. Ça fait une espèce de ch comme ça. Bon, c'est un peu trop grandiloquent. Seulement, c'est majestueux. Hein, il y a toujours cette expression de grand sentiment. Il n'est lui-même que quand il exprime de grands sentiments. Hein, c'est généreux.
Vous dites, c'est au sens grec un rhéteur, l'esclave des mots dans lesquels son esprit a enfermé les idées. Il met ses idées en rhétorique comme les musiciens mettent les leurs en musique.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il faut voir un petit peu. Quand c'est prononcé, ça impressionne, parce que c'est bourré d'assonances, d'allitérations, de rythmes triples ou quadruples, des métaphores qui sont filées à l'infini. Hein. C'est le genre de discours qui vous réveille les députés les plus somnolents. Alors évidemment, en temps de paix, c'est un peu trop grandiloquent, donc ça fatigue, mais en même temps, on admire, parce qu'on se dit quand même, tant d'éloquence au service souvent de causes un petit peu secondaires. Alors, vous avez, si vous donnez un échantillon. Hein. Pour ma part, je ne vois pas de grandeur dans un pays qui est maître des mers, mais est incapable de vider ses égouts. Hein. Voilà. Donc, les gens, forcément, ça réveille en sursaut. Hein.
Il dérange beaucoup.
Il dérange énormément. Et puis surtout, il a cette curieuse habitude qui ne se fait pas à l'époque, hein, d'ailleurs qui dérange même aujourd'hui, qui est de changer tout le temps de parti. Hein. D'abord, il est conservateur, mais en 1904, il passe aux libéraux. En 24, il repasse aux conservateurs. Au début des années 30, il devient conservateur d'opposition. Après quoi, il va revenir au Parti conservateur. Après quoi, il va devenir chef du Parti conservateur. Enfin, il n'arrête pas de faire des zigzags en politique. Alors, il le justifie très bien. Hein. Il vous dit, certains changent d'idée pour l'amour de leur parti. Moi, je change de parti pour l'amour de mes idées. Voilà, bah, c'est très bien. Hein. Et puis, il dit aussi, d'ailleurs, tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut un certain talent pour la remettre à l'endroit. Ça choque à l'époque, hein, on lui en veut de deux côtés, d'ailleurs, le parti qu'il abandonne et le parti où il revient, parce qu'on se méfie. On se méfie de cet homme-là. Seulement, avec les engagements politiques, viennent les responsabilités ministérielles. Voilà un homme qui va être 11 fois ministre. Hein. Vous le verrez dans tous les rôles. Et à chaque fois qu'il est ministre, évidemment, il change de rôle. Il abandonne totalement le rôle précédent. Hein. On largue toutes les généreuses idées qui ont été prononcées dans l'intérêt du ministère précédent pour passer à celle du ministère suivant. Alors, vous allez voir Churchill hein, au début du siècle. Hein, vous voyez un ministre du commerce zélé, ministre des colonies remuant, ministre de l'intérieur controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, ministre de la Marine éblouissant et ministre des Finances exécrable. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Hein. « They said I was the worst Chancellor of the Exchequer that England ever had, and they were right. Hein, » Voilà, on a dit que j'ai été le pire ministre des Finances que l'Angleterre ait jamais eu, et on a eu raison. Voilà. Alors, oui, parce que ça, l'économie l'ennuyait, ça l'a toujours ennuyé, hein, comme son père d'ailleurs. Et on peut penser que, comme son père, le jeune Winston aurait connu une ascension foudroyante, hein, une carrière météorique et une chute brutale, un petit peu aidée par son impulsivité naturelle et un léger manque de sobriété, dont on reparlera. Seulement, voilà, dans ce siècle, il va y avoir coup sur coup 2 guerres mondiales et ça va tout changer.
C'est ce que nous allons voir, François Kersaudy, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Ils furent confrères à l'Académie française. Jean d'Ormesson vous parle de Claude Lévi-Strauss. Écoutez le témoignage de l'écrivain à l'occasion du centenaire de l'anthropologue. Il fut son parrain, mais aussi son admirateur. Jean d'Ormesson vous livre des anecdotes et des moments riches d'humanité. Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson, une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Je reçois François Kersaudy, auteur d'une biographie consacrée à Winston Churchill, parue aux éditions Talendier, et nous évoquons la vie de Churchill avant, il s'agit d'une première émission consacrée à Churchill, donc toute la période avant l'année 1939. Nous avons laissé nos auditeurs avec cette idée que Churchill, engagé dans la politique, Churchill lié au monde militaire, qui apprécie la chose militaire, eh bien au fond, il va pouvoir exercer ses talents dans l'un et l'autre domaine dès 1914 avec ce qu'on a appelé à l'époque la Grande Guerre. Quel va être son rôle au cours de cette Grande Guerre ?
Alors, Churchill va se retrouver propulsé sur le devant de la scène du fait que les hommes qui occupent les hauts lieux de la politique à l'époque, ce sont des politiciens du temps de paix. Hein? Des gens comme Asquith, des gens comme Lloyd George, ce sont de grands cerveaux, mais ils sont totalement inadaptés au temps de guerre. Ils ne connaissent pas la guerre, ils détestent la guerre, ils craignent la guerre, et ils sont totalement perdus dans des situations de guerre. Dans le cas de Churchill, c'est exactement l'inverse. Il est fait pour les grands événements, sa grandiloquence y est adaptée, sa pugnacité y est adaptée, il connaît la guerre, il ne craint pas la guerre, il aime la guerre. Il n'est pas belliciste du tout, hein. Il n'est pas belliciste, c'est un grand pacifique, Churchill. Seulement une fois que la guerre est déclarée, il est belliqueux. On est là, la guerre est déclarée, on n'est pas là pour se reposer, hein. La guerre, il faut la faire et il faut la gagner. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si on se fait tuer dans le processus, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de gagner. Voilà. Et ça, ça va être, déjà pendant la Première Guerre, ça va être son souci constant. Hein? La guerre coûte cher, la guerre fait des morts, il faut la gagner vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Et donc, il va s'y mettre. Et là, vous allez voir un peu ce que c'est que l'homme de guerre Churchill, bien avant qu'on le connaisse en 1940.
Pendant la Grande Guerre, il y a l'épisode des Dardanelles et le nom de Churchill est lié à ce qui a été un échec pour l'Angleterre.
Oui, absolument. Il faut voir un petit peu ce que c'est que Churchill en artiste de la guerre. C'est un très grand organisateur. Il sait organiser, comme son père d'ailleurs. Il absorbe des milliers d'informations, il les mémorise, il les malaxe, il les digère. Et il va les ressortir sous forme d'ordre combinatoire qu'il va faire appliquer à la lettre et dont il contrôle en permanence l'exécution. Déjà pendant la Première Guerre. La Première Guerre, il est premier lord de l'amirauté, donc c'est le chef de la marine de guerre de Sa Majesté. C'est un prodigieux inventeur. C'est l'inventeur du tank. Il faut peut-être dire un petit peu comment ça s'est produit. En tant que chef de la marine, ça peut paraître curieux, mais il a débarqué en Belgique pour prendre la défense du port d'Anvers. Défense sur terre, hein, voilà. Il commandait la défense du port. Et d'ailleurs, il a réussi dans une certaine mesure. En tout cas, il a beaucoup retardé l'avance allemande. Ensuite, il a continué à s'intéresser aux opérations terrestres parce que la marine ne lui suffisait pas. Il faut aussi voir ce trait-là de Churchill. Un ministère ne lui a jamais suffi. Il a toujours fallu qu'il se mêle des affaires de ses autres ministres.
Ce qui les exaspérait.
Ce qui les exaspérait totalement. Et là, le chef de la marine, eh bien, ça ne lui suffit pas. Il faut aussi qu'il se mêle de la guerre sur terre. Et on lui dit, voilà, les Uhlans approchent des ports. On lui a confié aussi, d'ailleurs, l'aviation, parce qu'on s'est dit qu'après tout, puisqu'il se mêlait de tout, autant à l'époque, l'aviation, ce n'était pas très important. Mais lui a immédiatement fait des terrains d'aviation en France, fait construire. Seulement, quand les Allemands ont approché des terrains d'aviation, il dit « Ah, il faut sauvegarder les terrains d'aviation, comment on fait ?» Alors, comme c'est un grand inventeur, il a fait réquisitionner toutes les Rolls-Royce du royaume, il y a fait mettre des plaques de blindage et des tourelles avec une mitrailleuse au-dessus. Et quand les Uhlans à cheval ont vu arriver ces monstres qui crachaient le feu, je peux vous dire que ça a provoqué une certaine panique. Et puis bon, les Allemands sont adaptés, ils ont vu des automitrailleuses, ils ont fait des tranchées, creusé des tranchées au milieu des routes. Et du coup, les automitrailleuses ont été bloquées. Churchill ne se laisse pas démonter, il dit bon, très bien, que l'on mette au point des tracteurs blindés avec des pontons pour passer les tranchées. Et comme le War Office, le ministère de la Guerre, ne veut pas en entendre parler, eh bien, il fait construire les prototypes par les chantiers navals. Et pour que les Allemands ne soient pas au courant, il y a un nom de code. Au début, c'était Water Carriers for Russia, hein, donc des transports d'eau, donc des conteneurs d'eau pour la Russie. Seulement, évidemment, comme c'était beaucoup trop long, on s'est bien douté que ça allait faire WC pour la Russie. WC, ce n'était pas convenable. Donc, on a pris le synonyme. Le synonyme, c'était tank. Tank, c'est réservoir. Et donc, ça s'est appelé des tanks. Le ministère de la Guerre, d'ailleurs, appelait ça les folies de Winston. Les folies de Winston. Il était l'inventeur du tank.
Ce qui m'a beaucoup marqué dans votre biographie, c'est aussi, vous parlez du tank, mais il y a également l'aviation. Et cet homme qui lance l'aviation, ce qui sera plus tard la Royal Air Force, eh bien, passe son brevet de pilote. Et non seulement il passe son brevet de pilote, mais en plus, il expose sa vie à plusieurs reprises après X accidents d'avion.
Voilà, il s'est écrasé 5 fois en avion, c'est quand même fabuleux. Une fois, son instructeur est mort, d'ailleurs. Lui, il s'en est toujours tiré, hein, parce que vous allez voir, pendant toute la vie de Churchill, c'est injuste, on en reparlera, mais il aurait dû mourir une bonne 50aine de fois. Normalement, les chutes d'avion, les gens, une leur suffit, hein, pour mourir. Lui, 5. Il s'en est tiré, il y a eu quelques bleus, c'est tout. Vous verrez d'innombrables autres épisodes où, normalement, il n'aurait plus dû être là. Il aurait dû être mort. Hein, et jamais. Hein, ça, c'est inexplicable. D'innombrables, pendant ses premières campagnes, d'ailleurs, tout le monde se demandait comment il se faisait, qu'il était encore vivant. Et lui disait, oui, je crois que le ciel m'a réservé pour de plus grandes choses. Ce qui est quand même étonnant de la part d'un homme qui n'était pas croyant. Mais enfin, bon, voilà, ça, c'était Churchill. Et donc, il pensait que ça faisait partie du métier aussi, de devenir pilote. Ceci dit, il savait pas très bien décoller et il savait surtout pas atterrir. Donc, ça pouvait poser quelques petits problèmes. Je trouve que c'est le conducteur le plus distrait d'Angleterre, etc. Mais ça ne fait rien, ça ne l'empêchait pas de continuer.
C'est un homme courageux parce que après l'échec des Dardanelles précisément, il aurait pu très bien se retrouver dans un coin en attendant à nouveau son heure sur le plan politique. Or, lui, il va au combat.
Voilà, alors un mot de l'échec des Dardanelles. C'était en partie, bien entendu, sa faute. En tout cas, le plan venait de lui. L'idée, c'était, il voyait la boucherie qu'il y avait dans les tranchées, il dit, il faut tourner les lignes de l'ennemi, il faut le prendre à revers, donc l'opération des Dardanelles, bon, c'était pas si mal conçu que ça au départ, mais l'exécution a été absolument lamentable, tout le monde lui mettait des bâtons dans les roues, tous les ministres se mêlaient de stratégie, il y avait une cacophonie absolument déplorable, donc le plan lui est imputable, l'échec ne l'est pas, l'échec c'est imputable au Premier ministre et au ministre de la Guerre, qui vraiment ont été très en dessous des circonstances. Mais effectivement, comme vous le dites, donc en mai 1915, il est obligé de démissionner. Il assiste à la fin de cette triste opération. On lui donne une sinécure, donc un ministère où il n'a strictement rien à faire et où il ne risque rien. Et il est très mécontent. Il n'en veut pas. Il est là pour combattre, il veut combattre. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il s'embarque pour la France. Et il va se faire engager comme lieutenant-colonel pour aller se battre dans les tranchées avec les troupes à côté des Français. Et donc là, vous allez voir le lieutenant-colonel puis colonel Churchill au milieu des tranchées. Ça, c'est aussi très, très impressionnant.
Alors, malheureusement, François Carsoli, le temps nous fait défaut. Nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission. Je me permets de passer directement à l'entre-deux-guerres. Quelle est l'attitude de Churchill après la guerre à l'égard de l'Allemagne? Et également, quelle va être son attitude, là aussi de manière générale, à l'égard de ses collègues qui incitent à la pactomanie, à un certain pacifisme? Et aussi, quelle va être son attitude à l'égard d'Hitler et l'arrivée d'Hitler au pouvoir au début des années 30?
Alors, je vous l'ai dit, Churchill, c'est un grand pacifique. Ce n'est pas un pacifiste, parce qu'il considère que les pacifistes sont des fauteurs de guerre, justement, parce qu'ils donnent trop de tentations aux dictateurs. Mais c'est un grand partisan des réconciliations avec l'ennemi battu. Une fois que l'ennemi est battu, il fait tout pour, hein, déjà après la guerre des Boers, il n'aspire qu'à la réconciliation. Après la première guerre, c'est pareil. Hein, les Anglais crient « pendant le Kaiser », Churchill ne dit pas du tout ce qu'il faut, c'est se réconcilier avec l'Allemagne. Hein, donc il veut une réconciliation avec l'Allemagne et il ne parle que de ça. Donc ça ne le rend pas très populaire d'ailleurs, mais enfin, lui, c'est comme ça. Une fois que l'ennemi est vaincu, il faut lui tendre la main. principe qu'il appliquera toujours. Quel ça lui réussira d'ailleurs en général.
Correspond au principe de l'ancien concert européen finalement.
Oui, absolument. Mais Churchill était un nostalgique de l'ancien concert européen d'ailleurs. Et donc, après la guerre, c'était, voilà, il faut se réconcilier. La Société des Nations, un grand partisan de la Société des Nations, il fonde de grands espoirs dans la Société des Nations. Il faut ramener l'Allemagne dans le concert des Nations. Il faut s'opposer au bolchevisme parce que là, il y voyait un virus mortel. Et puis voilà. Et puis, bon, la crise économique passe par là. Lui est en désaccord avec son parti sur un grand nombre de questions, en particulier sur l'indépendance de l'Inde. Il est un petit peu en froid avec tout le monde. Et Churchill, c'est l'antidémagogue. L'opinion publique est pacifiste. Eh bien, l'opinion publique a tort. Quand l'opinion publique ne partage pas ses idées, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il va changer d'idée. Il va dire, il faut attendre que l'opinion publique change d'idée. Ce n'est pas moi qui vais changer d'idée pour plaire à l'opinion publique.
Quand il a tort, on lui dit. Il aura plusieurs échecs électoraux.
Ah oui.
Et il s'en remettra à chaque fois. Même si il y a ce fameux black dog dont vous parlez, cet esprit, ce spleen, si on pouvait trouver un mot français, dans l'inaction. Mais dans l'inaction, il trouve toujours un fait. Et généralement écrire.
Alors Churchill est un grand dépressif, c'est de famille, c'est vraiment congénital. Il a trois remèdes à cela. Le premier, c'est l'action à tout prix. Deuxième, c'est l'écriture, il n'arrête pas d'écrire dans les journaux, etc., des discours, des livres, etc. Bon. Et puis le troisième remède, eh bien, c'est l'alcool. L'alcool à dose respectable, très respectable. Il était confit dans l'alcool du matin au soir. Ça, il faudra qu'on en reparle. Mais enfin, j'ai essayé de faire un petit peu le total de ce qui pouvait ingurgiter dans une journée. Vous avez de quoi tuer un troupeau de bœufs. Mais chose curieuse, il n'était jamais sous. Il était confit dans l'alcool du matin jusqu'au soir. Mais personne ne peut dire qu'il a vu Churchill ivre. Il ne l'était jamais. On ne sait pas pourquoi. C'est un cas de métabolisme absolument unique. Il a vécu 90 ans en buvant, comme un poisson, dit l'Espagnol, mais pas ce que boivent les poissons. Il y avait de tout. Il y avait du sherry, il y avait du cognac, il y avait du whisky, il y avait du champagne, il y avait du vin blanc, etc. Enfin bon, c'était un mélange d'étonnant toute la journée, sauf de 14h à 15h, non pas parce qu'il était sobre à ce moment-là, mais simplement parce qu'il faisait la sieste. Donc là, il ne buvait pas en dormant. Le reste du temps, il était entièrement confit dans l'alcool. Mais ça servait à la fois de stimulant et d'anxiolytique, et ça lui réussissait. Chose curieuse, ça ne réussissait à personne d'autre, surtout pas à son fils, mais lui, ça lui allait très bien. Et d'ailleurs, le jour où, vers la fin de ses jours, on lui a dit que ce n'était pas très bon pour lui, il a été très étonné. Il a fini par dire à son médecin, « Charles, j'ai décidé de ne plus boire de cognac. » Et je l'ai remplacé par du Cointreau. Voilà, un petit peu la tempérance à la mode de Churchill. Mais toujours est-il que là où il va se trouver stimulé à l'action, c'est avec l'avènement d'Hitler. À la différence de beaucoup de ses compatriotes, il a tout de suite compris ce que signifiait l'avènement d'Hitler. Et que c'était un danger mortel pour l'Angleterre, encore plus que ce qu'avait été le danger du bolchevisme. Et dès 1933, il l'a dit, il a entrepris de combattre la menace et de prévenir ses compatriotes qu'avec l'état de leur défense, qui était lamentable, eh bien, ils allaient être submergés par la dictature nazie. Il n'a pas été compris, ça assurait son impopularité pendant 6 ans, mais il n'a jamais changé d'avis à ce sujet. Et c'est ce qui fera plus tard, ce qui lui permettra plus tard de surmonter un certain nombre de défaites. Ce sont ces avertissements que personne ne prenait au sérieux et qui se sont révélés, évidemment, totalement prophétiques en 1940.
C'est cette lucidité donc qui lui permettra de devenir Premier ministre. C'est ce que nous verrons, François Kersaudy, dans une deuxième émission. Je donne donc rendez-vous à nos auditeurs très bientôt pour cette émission consacrée à l'autre appel du 18 juin. Merci beaucoup, François Kersaudy, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage, Winston Churchill, un livre paru chez Talendier, et toujours aux éditions Talendier, la réédition d'une partie des œuvres de Churchill, Mes jeunes années, Réflexions et aventures, et enfin Les discours de guerre. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.